Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
La mémoire catalane.
C'est un moment fondamental pour la Catalogne, un moment historique que je ne croyais pas possible il y a quelques années. C'est le résultat d'une force, d'un tremblement de terre du peuple. Ça me donne la chair de poule rien que d'en parler.
Piel de gallina en estos momentos.
Très heureuse, parce que mes grands-parents, mes parents, ils étaient attendant ces moments pour que nous pouvons gagner l'indépendance.
L'appel aux parents, aux grands-parents, dès avant les élections d'hier, la mémoire catalane s'était cristallisée de manière accélérée depuis quelques années. Une des explications est à chercher, bien sûr, dans les ressorts propres de la vie catalane, mais une autre tient à l'érosion du système politique espagnol. Tout comme chez nous, les repères institutionnels s'y dégradent, la droite et la gauche s'y fragmentent, et menacés par cette dilution, le pouvoir autonome de Barcelone, la Generalitat, a mis sur la table la carte de l'indépendance pour rester dans la partie. La bataille pour la langue étant déjà largement gagnée, la campagne s'est jouée sur la comparaison des avantages et des inconvénients économiques qui découlent de l'appartenance à l'Espagne. Celle-ci est un état des autonomies, une nation de nations qui redistribue les richesses, mais sans accorder à Barcelone, qui en produit beaucoup, les privilèges qu'elle souhaiterait. Or, les Catalans, faute d'avoir pu construire l'Espagne à leur image, se rêvent en petits pays riches. Jusqu'ici, la séparation était simplement une utopie qu'ils gardaient à leur disposition pour le débat qu'ils concevaient encore dans le cadre constitutionnel, mais le vote d'hier entame l'équivalent d'une procédure de divorce, ce qui n'était qu'un horizon d'attente, prend soudain une forme juridique, l'issue est incertaine, ce qui est sûr, c'est que le ressassement des griefs du passé va jouer un grand rôle dans le long combat qui commence.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Stéphane Michonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à l'université de Lille, bien loin de la Catalogne, encore que les Flandres ont été sous tutelle espagnole, elles aussi. Et vous êtes un historien de la mémoire, c'est-à-dire que vous essayez d'expliquer en tout domaine quel ressort politique peut constituer la mémoire.
Oui, exactement. Il s'agit d'essayer de comprendre comment les références au passé servent à cristalliser les identités collectives, nationales, entre autres.
Le passé joue un rôle différentiel. Alors, l'espace de la Catalogne, il pourrait comporter notre département des Pyrénées-Orientales. Mais enfin, on ne va pas toucher tout de suite à ce sujet. Et les Baléares, on ne va pas en parler non plus, d'autant que le roi y réside souvent, le roi d'Espagne. Non, je voudrais qu'on évoque d'abord le nom de la Catalogne, avec un grand maître que vous avez été trop jeune, que vous êtes trop jeune pour avoir connu, non ?
Je l'ai connu.
Pierre Vilar.
Le nom de Catalogne nous est familier. Nous n'avons pas le sentiment qu'il couvre un mystère. Pourtant, c'est un nom historique récent. On n'en trouve aucune trace jusqu'au XIIe siècle. Tout au début du XIIe siècle, les comtes de Barcelone montèrent, de concert avec la République de Pise, une attaque contre les musulmans de Majorque. Des écrivains italiens furent chargés d'en raconter les exploits. En bons chroniqueurs officiels, ils se conformèrent au pédantisme de leur époque. Ils voulurent trouver un nom antique à leurs alliés. Ils cherchèrent dans Ptolémée, naturellement. Mais ils tombèrent sur un mauvais manuscrit. Pour la peuplade ibérique Lacetanoï, le scribe avait transcrit Catelanoï. 40 ans plus tard, tout le monde parlait de catalan et de Catalogne. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie historique. Et si le nom fut gardé, c'est qu'on en avait besoin.
Ah ben voilà ce que c'est que la mémoire, telle que l'a définie à sa manière Pierre Vilar, heure de culture française, 1958 à la Radio Nationale. C'est ce dont on a besoin et qu'on mobilise aujourd'hui. Vous me direz que le nom d'Espagne lui-même, enfin il était utilisé très souvent à l'extérieur de l'Espagne, mais longtemps, le roi d'Espagne, c'était le roi d'Aragon qui était comte de Barcelone, c'était le roi de Castille, on disait pas tellement à l'intérieur roi d'Espagne.
Non, absolument. Espagne, c'est un nom ancien, mais qui a surtout un sens géographique. En vérité, il désigne la péninsule, comme les Romains le faisaient. Au sens politique, le mot s'utilise plutôt au pluriel, on dit roi des Espagnes. Car le roi a plusieurs couronnes sur sa tête, la couronne d'Aragon, la couronne de Castille, voire la couronne du Portugal également, entre 1580 et 1640.
Si vous voulez bien, ne réveillons pas de nationalisme hispano-portugais opposé. Le nationalisme catalan, c'est pas une surprise, il va naître au 19e siècle, comme beaucoup de nationalismes européens, et il va naître autour de questions de langue et de culture.
Oui, bien entendu, le nationalisme, comme nous l'entendons aujourd'hui, ça a un sens politique, donc cela naît au 19e siècle, pas avant. Mais ce mouvement nationaliste catalan, qui est assez tardif à la fin du 19e siècle, est précédé d'une phase de renaissance culturelle qu'on appelle la Renascença, dont on date à peu près symboliquement la date de naissance à 1833, lorsque une ode à la patrie a été écrite par Bonaventura Aribau, lequel monsieur, qui était un banquier, utilisait évidemment la langue castillane pour faire ses affaires. C'est assez typique de cette période culturelle où les élites catalanes professent en fait un double patriotisme, c'est-à-dire un attachement très profond au particularisme catalan, mais également une adhésion tout à fait sincère au projet national espagnol.
Qui va, ce nationalisme catalan, qui n'a pas encore pris la forme politique, se développer quand Barcelone, vous avez fait une thèse sur l'architecture et l'espace public de Barcelone, va se modifier. Vous avez étudié tous les monuments qu'on a sommés, notamment sous l'autorité d'un certain Victor Balaguer, qui fabriquait des mythes et nommait des rues dans les boulevards, sur les Ramblas, un peu partout dans la ville.
Oui, à partir du moment où la ville se modernise, dans les années 60, elle se dote d'un appareil... 1860, pardon, oui. Elle se dote d'une toponymie et d'un appareil monumental extrêmement conséquent qui dit ce double patriotisme, précisément cet attachement à la patrie, avec à la petite patrie, comme on dit en Espagne. Alors, avec ceci de très particulier que les Catalans sont convaincus que le sens fondamental, le caractère fondamental du peuple espagnol est la liberté, et qu'ils sont en quelque sorte les derniers tenants de ce sentiment de la liberté contre un État central qui a dévoyé les autres régions d'Espagne et qui les a en quelque sorte noyés et perdus. Donc eux, quand ils se révoltent, ils réaffirment le sens premier de la nation espagnole.
Ah, et donc, quand vous parlez de bipatriotisme, alors je vais faire des comparaisons qui sont peut-être scandaleuses pour les auditeurs catalans, c'est un peu comme les Prussiens, quand ils veulent fédérer l'Empire, c'est un peu comme les Piémontais de Piémont-Sardaigne, quand ils veulent être le fer de lance de l'unité italienne. La comparaison avec les Piémontais est peut-être la plus juste, parce que les Catalans rêvent d'une Espagne libérale, plurielle.
Alors, d'un point de vue politique, c'est tout à fait exact. Mais également, la Catalogne se pense comme une locomotive industrielle, une locomotive culturelle, la pointe de la modernité, le pays d'Espagne le plus proche de l'Europe du Nord. Et elle espère, effectivement, et elle entend conduire la modernisation et la rénovation de l'Espagne. Simplement, dans ce projet, elle est frustrée par l'opposition d'autres élites espagnoles qui n'ont pas du tout, qui n'entendent absolument pas se laisser faire et laisser catalaniser l'Espagne.
Elle est trop petite, pas assez puissante pour être la locomotive d'un train trop lourd.
Elle est trop petite d'un point de vue démographique, c'est environ 15% de la population, et puis elle n'a pas les réseaux politiques, contrairement aux Basques qui, eux, sont parfaitement intégrés dans les gouvernements centraux.
Ah, c'est encore un propos subversif que vous tenez là, Stéphane Michonneau. Il y a un monument que vous étudiez au long d'un chapitre entier dans votre livre sur les statues de Barcelone, c'est le monument à Christophe Colomb. Parce que les Catalans, ils sont partisans d'une Espagne plurielle et libérale dans laquelle ils joueraient un rôle moteur, et ils sont partisans d'une Espagne impériale.
C'est un aspect très important du catalanisme, comme l'a montré un historien très célèbre qui s'appelle Enrico Salay-Dacal. L'impérialisme est au fondement du catalanisme. Et le catalanisme a sans cesse soutenu toutes les entreprises coloniales espagnoles, que ce soit en Afrique, à Cuba naturellement, où les intérêts industriels catalans sont extrêmement puissants.
Bon, on va peut-être s'arrêter là si vous le voulez bien. Et je préfère qu'on entende Maurice Molo, autre grand historien catalaniste de la Sorbonne, développer un point de vue plus familier pour nos auditeurs. Il y a cet espace public avec ses monuments parfois problématiques, et puis il y a les fameuses façades des immeubles de Barcelone.
Nouveau, osé, différent, tel est le mot d'ordre que les architectes se sont donné. Partout, des pavots aux tiges recourbées, des marguerites dont la tête se penche et trace une volute torturée. De toutes parts, des faïences multicolores, des portes et des fenêtres d'où on a banni la ligne droite. Un vent de folie souffle sur cette ville qui veut être l'une des plus grandes et des plus somptueuses de l'Europe. La municipalité offre un prix à la façade la plus originale bâtie dans l'année, autrement dit, à la plus outrancière.
Et voici la façade que nous avons dédiée à la naissance du Christ. Pour ce motif, nous avons utilisé de nombreuses figures et de nombreux thèmes d'animaux et végétaux qui suggèrent la nativité.
Il faut avoir beaucoup de personnalité pour construire un monument aussi moche et aussi grand.
On aura reconnu les hommes du chantier perpétuel et les visiteurs de la Sagrada Familia, le monument d'Antoni Gaudí. Les touristes seraient peut-être surpris s'ils vous entendaient, parce que vous allez maintenant nous dire que le catalanisme est très catholique, d'un catholicisme très rude, et que Gaudí, par exemple, en est une illustration.
Une partie du catalanisme, parce que il y a deux origines. Une origine républicaine, fédéraliste, extrêmement puissante, qui a soutenu la naissance de la première république fédérale en 1873. Et puis effectivement, comme vous dites, l'autre partie, qui vient du carlisme, qui défend un catholicisme ultra, un projet sociétal extrêmement réactionnaire. Et donc Gaudí est directement l'héritier dans sa tentative de recatholicisation de la société ouvrière et urbaine.
Bon, on va dire par euphémisme que ce nationalisme catalan, parce qu'on peut utiliser le mot à partir de la fin du 19e et du début du 20e, n'est pas très soucieux de la redistribution ou de la justice sociale. Et alors, ce catholicisme de la bourgeoisie industrieuse, on peut employer ce mot-là ?
Oui.
Qui considère que l'atelier catalan doit fabriquer un monde moderne, il va ressusciter des événements historiques, des marqueurs, comme on dirait aujourd'hui. Et d'ailleurs, à chaque fois, ce sont les Français qui sont responsables des défaites créatrices qu'ont connues les Catalans.
Oui, c'est une lecture très singulière de l'histoire qui est faite à ce moment-là, une sorte de relecture générale de l'histoire de la Catalogne. Alors, il y a plusieurs dates qui sont tout à fait importantes, mais celle qui est la plus célèbre, c'est certainement le 11 septembre 1714, lorsque Barcelone a été prise par les troupes castellano-françaises à l'issue de la guerre de succession d'Espagne.
Donc, le roi de France voulait imposer Philippe d'Anjou, qui va devenir Philippe V. Les Catalans étaient les derniers à résister à ce projet des Bourbons, et la ville a été prise par les partisans de Philippe d'Anjou. Il paraît qu'il y a encore des surnoms désagréables qui sont donnés à ceux qui ne veulent pas l'indépendance de la Catalogne et qu'on appelle les botiflers.
Les botiflers, tout
à
fait.
C'est
un mot qui date, je ne sais pas.
C'est les partisans des Bourbons.
Sans doute.
Ouais. Ah bah c'est vous qui savez.
Je ne me suis pas posé la question. Et puis le mot date de l'époque.
L'autre grande date dont sont responsables aussi les Français, c'est 1808.
Alors 1808, c'est
l'invasion par Napoléon.
C'est un héritage un petit peu ambigu, parce qu'à cette époque-là, la Catalogne fait pleinement partie du projet de défense de l'Espagne. Toutes sortes de juntes se soulèvent, et puis il y a des grands mythes qui sont nés à cette époque-là, en particulier le siège de Gérone, qui est un mythe national espagnol. Et les catalanistes ne sont pas toujours très à l'aise avec le souvenir des guerres napoléoniennes, parce qu'ils voyaient dans l'invasion napoléonienne une forme de modernité qui pouvait leur aller bien.
Oui, parce que Napoléon, il a récupéré les quatre départements l'équivalent de la Catalogne d'aujourd'hui, pour en faire quatre départements français.
Et il a même publié un journal en catalan, ça doit être l'un des premiers journaux en catalan.
Oui, mais enfin, revenons quand même à l'aspect utilitariste de 1808 pour les nationalistes catalans. Ce sont les troupes de Napoléon qui ont détruit l'extraordinaire bibliothèque de Montserrat, au lieu du catalanisme où Ignace de Loyola est censé s'être converti.
Montserrat, c'est d'abord l'image d'une vierge noire au visage fin et gracieux, la patronne de la Catalogne. C'est encore une montagne qui se dresse en éruption d'énormes rochers levés à pic et dont la silhouette au sommet en dents de scie ont valu le nom de Montserrat, c'est-à-dire Mont-Sillé. Depuis toujours, Montserrat a été si lié à notre peuple que pour nous, Catalans, c'est une sorte de sanctuaire national.
On On entendait Johann Lavreda et maintenant, voici, créé à Montserrat en 1898 au zénith du nationalisme catalan du 19e siècle, un des hymnes de la Catalogne.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La mémoire catalane avec Stéphane Michonneau. Alors c'est un hymne au drapeau. Nous te dresserons partout, tu nous montreras le chemin. Bon, les paroles sont pas d'une extrême originalité. Donne voix à celui qui chante cet hymne et force au bras de celui qui tient le drapeau. Qu'est-ce que c'est le drapeau d'ailleurs?
Le drapeau c'est la señera, le cant de la señera.
Ça c'est le nom de cet hymne et la señera c'est?
C'est le drapeau catalan.
Oui mais...
C'est-à-dire... 4 barres 100 sur fond or.
Oh, ouais.
Ce n'est pas le drapeau indépendantiste, attention. Mais c'est le drapeau qui s'impose comme le symbole du catalanisme au 19e et au 20e siècle.
C'est pas celui
jusqu'à
qu'on a
une date récente.
Fleurir aux fenêtres
non.
Ces dernières années. Et cet hymne, finalement, ce n'est pas l'hymne qui a été choisi, le chant du drapeau.
Non, ce chant est très célèbre, il est très important, surtout que le poète João Maragall est une grande personnalité culturelle du début du 20e siècle. Et d'autant plus important que dans les années 60, il a servi de chant de ralliement. Il y a eu des faits très importants au Palais de la Musique catalane où le chant a été entonné, Jordi Pujol a été arrêté. Mais ce n'est pas le chant qui a été retenu comme hymne national. L'hymne national, c'est El Segador, qui font référence au corpus de sang de 1640, lorsque les Catalans se révoltent contre la couronne espagnole.
Encore une autre date à mettre au blason du catalanisme. Fin 19e, début 20e, on en était resté là. Chaque fois que la question catalane se pose, c'est qu'il y a une grande crise du système politique, que Madrid est ébranlée. Et là, à la fin du 19e, Madrid est ébranlée par la chute de Cuba, par l'effondrement de l'Empire, dont vous nous disiez que les catalanistes de Barcelone étaient de grands partisans.
Oui, les catalanistes ont un projet pour l'Espagne, ça c'est très important de le comprendre. Simplement, ils n'ont pas toujours les moyens de l'imposer au reste des Espagnols, et donc ils choisissent des moments très particuliers où l'État central est faible pour pouvoir marquer le point. Effectivement, la fin du 18e, la fin du 19e, avec la perte de Cuba en 1898, de Puerto Rico et des Philippines, est un moment particulièrement important, puisque c'est là où, pour la première fois, on a un parti nationaliste catalan qui affirme l'existence de la nation catalane, alors que l'Espagne n'est considérée que comme un État. Et c'est un premier moment de crise extrêmement puissant, où les Catalans revendiquent. Finalement, ils sont très mécontents de voir que l'État espagnol est tout à fait incapable de poursuivre leurs projets impérialistes et décident de construire un État propre et de changer de cheval, en quelque sorte.
Un petit pays expansionniste et riche. Aujourd'hui, il n'y a plus que le deuxième objectif qui puisse être fixé. Une autre grande période de crise, c'est la fin du règne d'Alphonse XIII, marqué par la dictature qui va finalement échouer de Primo de Rivera. Et en 1931, actualité Gaumont.
Pathé Journal vous a fait ici même la semaine dernière une relation des événements qui ont amené le renversement du pouvoir monarchique. À Barcelone, la victoire du catalanisme est fêtée avec un enthousiasme inégalé partout ailleurs. C'est que Barcelone ne célèbre pas seulement aujourd'hui la fin d'un régime dont elle a eu à souffrir plus que tout autre des provinces ibériques, mais encore son autonomie politique, la liberté de parler sa langue propre, de développer sa culture propre, de poursuivre la réalisation de l'idéal auquel elle n'a jamais renoncé, malgré l'oppression dont elle a souffert jusqu'ici.
Catalan, interprétant le sentiment et les aspirations du peuple qui n'arrête pas de donner son suffrage, je proclame la République catalane comme État intégré à la Fédération ibérique. En accord avec le président de la République fédérale espagnole, M. Zamora, avec lequel nous avons ratifié les accords du pacte de San Sébastien, je me charge provisoirement des fonctions de gouverneur de Catalogne en attendant que les peuples espagnols et catalans puissent exprimer leur volonté.
Alors quand la République survient, c'est la seconde, il y en a eu une au XIXe siècle, brève, on entendait le leader catalaniste de l'époque, Francesc Macià, il y a cette idée d'une structure fédéraliste.
Cette idée, elle est très ancienne, on la trouve dès 1870. On trouve des demandes qui sont faites officiellement à la députation de Barcelone à l'époque de constituer l'État catalan à l'intérieur d'une fédération espagnole.
Et qu'en pense la République espagnole?
Eh bien,
et le président Zamora,
il faut dire que cité. La proclamation de l'État catalan précède de quelques heures la proclamation de la République à Madrid. Et donc Madrid est bien obligé de négocier, envoie trois émissaires. Et pendant trois jours, il va y avoir des discussions très difficiles pour essayer de réinscrire cet État catalan à l'intérieur, comme l'a dit Francesc Macià, d'une fédération des républiques ibériques. Et l'un des termes de cette négociation, c'est la naissance du statut d'autonomie de la Catalogne en 1932 et la renaissance de la généralité.
Oui. Et en 1934, il y aura encore une crise, mais quand l'État catalan voudra aller plus loin, la République de Madrid lui fera comprendre que ce n'est pas possible. Cette époque, qui va être marquée aussi par les élections de 36 et la montée en Catalogne comme ailleurs du Front Populaire, c'est un changement d'orbite du nationalisme catalan, d'orbite sociale.
C'est un tournant à maints égards. D'abord, il faut dire que cette république succède à une période de dictature militaire où le catalanisme a été poursuivi dans ses expressions culturelles.
Primo et à ce moment-là,
absolument, Primo Rivera. Et à ce moment-là, le catalanisme s'est identifié à la lutte pour la démocratie et pour la république. Alors ce trio, catalanisme, démocratie, république, est très puissant. Il rejouera dans les années 60 et traverse évidemment toutes les années 30.
C'est sûr que le roi des Espagne est moins populaire aujourd'hui encore, peut-être en Catalogne, que dans le reste de la péninsule. Une dictature avant, Primo de Rivera, une dictature autrement longue et autrement terrible pour le catalanisme, après la défaite des républicains espagnols, c'est celle de Franco, qui supprime non seulement la Generalitat, mais tous les symboles. L'hymne qu'on entendait va être interdit, le drapeau, la Serenia, interdit lui aussi.
Bien sûr. Le franquisme fait un usage folklorique des quelques signes catalans, mais l'essentiel de l'expression, désormais culturelle et politique, est évidemment réprimé. Ce qui n'empêche pas la renaissance d'une opposition, lentement, au cours des années 60, laquelle opposition repose à nouveau sur la vigueur d'un renouveau culturel catalaniste très puissant, avec la nouvelle chanson, par exemple, à partir des années 60.
Et de nouveau le retour de Montserrat comme haut lieu. Franco avait l'habitude d'aller à la messe à Montserrat et puis au bout d'un moment il a entendu que les moines tenaient de nouveau un langage catalaniste et il s'est abstenu d'y retourner. 1978, donc la mort de Franco, la nouvelle constitution qui fait de l'Espagne un état des autonomies. Alors ça, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, ça. C'est pas un état fédéral, mais les états qui ne sont pas fédérés, qui sont autonomes, les autonomies, ont un grand pouvoir, par exemple, en matière culturelle, linguistique.
Oui, l'article 2 de la constitution de 78 proclame l'indissoluble unité de la nation espagnole. Donc il ne s'agit pas d'une constitution fédérale. Par contre, il reconnaît le droit à l'autonomie des fameuses nationalités.
Et nationalités considérées comme minoritaires, mais nationalités néanmoins.
Il constitue 19 autonomies, 17 puis 19 autonomies, communautés autonomes. Et parmi celles-ci, les communautés dites historiques, Galice, Pays Basque et Catalogne, obtiennent la voie rapide, c'est-à-dire la voie d'une décentralisation extrêmement poussée.
La voie rapide, ça aboutit à l'immersion linguistique dans les écoles. À l'obligation pour les immigrés d'apprendre le catalan, il n'y a pas à rigoler là-dessus. C'est un peu comme au Québec. C'est le modèle.
C'est le modèle, le Québec, effectivement. L'immersion linguistique naît très tôt, dès que la généralité renaît dans les années 80. C'est une loi de 83, loi de normalisation linguistique, qui est devenue en 98 une loi politique linguistique qui prévoit l'immersion complète du jeune catalan dans un univers de langue catalane.
Les auditeurs auront compris que j'ai pas été soumis à immersion linguistique. On va entendre ici un grand moment de la toute dernière période que nous allons évoquer depuis 2010-2011. C'est pas une conséquence de la crise économique, ou en tout cas pas seulement, et des manifestations ont lieu chaque 11 septembre, et des chaînes humaines dans la province, et des immenses rassemblements dans la capitale, à Barcelone.
Le 11 septembre 2012 reste le marqueur du combat catalan. Plus d'un million de personnes dans les rues. Le 11 septembre, date symbole de la nation catalane. Ce jour-là, en 1714, Barcelone, après un siège de 14 mois, tombe entre les mains des Bourbons, de l'Espagne. Un tableau d'Antoni Estruc célèbre la résistance. Une autre liberté guidant le peuple en quelque sorte. Exposé pour la première fois au musée d'histoire, 2000 visiteurs pour sa présentation le week-end dernier.
C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons un revival de l'histoire et surtout de cet épisode dans le moment présent, que c'est aussi un moment de rupture avec l'Espagne.
Revival, que les Québécois me pardonnent, il y a aussi benchmarking dans la démarche des Catalans. Parce qu'ils se disent, on produise beaucoup de richesses, il faut qu'on en redistribue aux autres, et nous voulons être un petit pays riche. Et vous, vous êtes étonné de l'incapacité à répondre de Madrid.
Oui, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est finalement de voir le formidable silence qu'oppose le gouvernement central à ces revendications. On a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de projet positif qui inciterait les Catalans à rester à l'intérieur de la nation espagnole.
C'est-à-dire que Madrid produit des menaces. Il n'est pas seulement silencieuse.
Principalement, il n'y a pas que Madrid, il y a aussi bon nombre de chefs d'État étrangers qui s'y sont mis, la Commission européenne également.
Pour vous, le catalanisme, allez, vous avez été provocant d'un bout à l'autre, Stéphane Michonneau, c'est une utopie. C'est une utopie disponible, là.
C'est une utopie.
Mais qu'il ne faut peut-être pas utiliser... Il faut la garder comme une utopie.
C'est un horizon qui apparaît positif à ses partisans. Une utopie qui recouvre des idées de liberté, de droit à décider, de souveraineté populaire en quelque sorte.
Oui, mais quand l'utopie rencontre les chicanes juridiques qui ne vont pas manquer de surgir dans ce divorce dont les Catalans voudraient qu'il soit sans pension alimentaire, on est parti pour une longue affaire. Vous faites la comparaison encore avec le Québec?
Oui, j'ai le sentiment qu'effectivement l'affaire n'est pas réglée et ne s'est pas réglée hier soir. Elle va continuer encore très longtemps. Principalement, maintenant s'engage la partie de la négociation avec le gouvernement central, une négociation qui sera longue, difficile et qui n'aboutira peut-être pas à l'indépendance. Il y a bien d'autres solutions politiques à laquelle on peut penser, comme des États-Unis d'Espagne, des confédérations, des associations d'États. Et là, il y a beaucoup d'imagination au pouvoir. Et l'exemple québécois est tout à fait intéressant. Il est, de manière générale, un exemple très important pour les Catalans.
Et de toute façon, ils n'ont été que 48%, les Catalans, même si la participation a été forte, à voter pour les candidats qui préfigurent l'indépendance et qui eux-mêmes sont extrêmement divisés. Votre livre sur la mémoire de Barcelone aux presses universitaires de Rennes, et puis sur notre site, toutes sortes d'autres indications. Mais notre site est moins riche que celui de Mathieu Vidard. Qu'est-ce qu'il y a au programme, cher Mathieu?
L'éloge des mathématiques, Jean, dans un instant, pour évoquer le lien entre la philosophie et les mathématiques avec, entre autres, Alain Badiou.
Alors, sur notre site, on trouvera notre générique, la préparation Frédéric Martin et Linka Negulesco. Céline Loriou, la plus hispanisante de nous tous, et Franck Olivard, le plus basque de nous tous. Jacques Sigal à la réalisation, Guillaume Roux à la technique.